Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce nouveau cours de Microsoft Virtual Academy. On va passer avec Stanislas un ensemble de cours dédiés à un sujet parfois un petit peu oublié de l'IT, mais qui est fondamental, les plans de reprise d'activité.
Et qui nous tient à cœur particulièrement.
Et donc on va passer ensemble un ensemble de cours qui vont réviser comme ça les différentes possibilités de plans de reprise d'activité qu'on a à l'intérieur des solutions et des technologies Microsoft. Ce premier cours, il est dédié à Hyper-V Replica dans Windows Server, donc à l'intérieur de mon data center. Comment est-ce que je fais un plan de reprise d'activité entre plusieurs data centers, par exemple. Alors, les objectifs de ce cours. Quelques principes de base, quelques rappels. La terminologie qui est forcément utile dans ce genre de configuration. Qu'est-ce que le RTO? Qu'est-ce que le RPO? Et puis, une fois qu'on aura vu ces principes fondamentaux, eh bien, on ira voir les technologies implémentées dans Windows Server à partir de Windows Server 2012. Puis comment est-ce qu'on les met en œuvre, les bonnes pratiques, la configuration et l'optimisation de tout ça.
Donc l'agenda sera le suivant. On va commencer par un bref rappel ou introduction aux notions des plans de reprise d'activité ou DRP en anglais, Disaster Recovery Plan. Ensuite, petite introduction sur ce que c'est que Hyper-V Replica. Ensuite, comment le configurer, faire les tests et les bascules de plans de reprise d'activité, parce qu'un PRA, on va le voir, c'est quelque chose qui se teste et se reteste. On parlera ensuite d'architecture, des mécaniques de réplication et de resynchronisation des machines virtuelles, le dimensionnement, les bonnes pratiques. Et comme tout bon cours qui se respecte, on terminera par une petite synthèse englobant tout cela.
Eh bien, c'est parfait. Parti pour ce premier module d'introduction aux notions de plan de reprise d'activité. Alors, effectivement, s'il y a une chose qui est prévisible dans le domaine de l'informatique, c'est que le pire, tout ce qui peut arriver de pire arrivera, et au moment le moins favorable, évidemment.
Exactement, la loi de l'embêtement maximum, comme on dit parfois, ou loi de Murphy pour les plus scientifiques d'entre nous. Donc effectivement, quand vous avez ce type d'événement où une salle machine, ou un rack de serveur, ou à l'échelle plus grande, un data center prennent feu, par exemple, eh bien on est dans un bon exemple, effectivement, de comment être capable de redémarrer, en gros, une production quand on est dans cet état catastrophique. Alors, ça ne se passe pas que du côté des États-Unis, ce genre de choses. Effectivement, le but du PRA, c'est comment pouvoir remonter, en gros, le système. Donc, la veille de l'enregistrement de ce cours MVA, on a un data center qui est en Italie et qui a également brûlé. Donc, ce n'est pas des choses qui arrivent une fois de temps en temps. Ça arrive, ça peut arriver. Donc, ça vaut le coup, effectivement, d'en tenir compte. Alors, on parle de désastre majeur pour le PRA. Désastre majeur, c'est effectivement le feu, c'en est un relativement connu. Mmh. On a également tout ce qui est l'eau, hein, les inondations, tout ce qui est, en gros, on va dire, désagrément climatique majeur. Ça peut être une tempête également. On peut penser à Katrina, on peut penser à Sandy, par exemple, qui avait créé des grandes pannes.
On peut penser au feu d'artifice, hein, c'est la saison pendant l'été.
On a rarement fait un feu d'artifice dans notre Arnaud, mais
il y a toujours des choses très surprenantes qui se passent.
Voilà, donc effectivement, on pense au feu, on pense à l'eau, on pense effectivement à des pannes globales d'électricité, pas uniquement sur un data center. Et l'idée, c'est voir comment on peut se prémunir ou comment on peut apporter une solution de secours à ce genre d'opération.
Première réaction, c'est le déni.
Non. Exactement. Souvent, alors quand on pose la question à nos clients, on va dire que majoritairement quand même, ils ont tous plus ou moins, un plan de reprise d'activité ou un DRP en anglais, Disaster Recovery Plan. Et certains disent non, mais est-ce qu'on en a vraiment besoin? Comme toujours, hein, la réponse est la même, c'est toujours face à un mur qu'on verra le mieux le mur. Juste à savoir, c'est que chaque année, des entreprises ferment parce qu'elles ont eu un désastre majeur dans leur informatique. Que quand l'informatique est un des outils qui fait avancer, permettre de travailler dans l'activité d'entreprise et que l'outil n'est pas disponible et que les gens ne peuvent pas travailler, et ben c'est inactivité d'entreprise, perte d'argent et parfois c'est arrêt d'entreprise. Alors le fameux plan B, Arnaud.
Le fameux plan B, un plan de reprise d'activité, c'est quoi? C'est avoir un ensemble de technologies qui vont permettre que un sous-ensemble de ma production reparte. Ça ne veut pas dire un plan de reprise d'activité qu'on va tout faire repartir dans un site secondaire. Ça veut dire qu'on va repartir sur un mode qui sera certes un petit peu dégradé, sans doute au début, mais qui permettra à l'entreprise de continuer son activité, continuer son business, malgré cet désastre majeur sur son système d'information. Il y a une version un petit peu plus verbeuse qui est dans les slides et qui est citée par Wikipédia, mais globalement, voilà ce qu'on entend par PRA, voilà ce qu'on cherche à acquérir.
C'est arrivé à redémarrer une activité informatique minimum pour pouvoir faire survivre l'outil de l'entreprise pour travailler. Et donc, minimum, c'est parce que, effectivement, si on veut tout redémarrer, on démarre à rien, en fait. C'est un vieil adage. Donc, il faut effectivement faire des choix au moment de ce qui est réellement vital pour l'entreprise. Vous voyez un PRA un petit peu comme la réaction du corps humain face à des conditions extrêmes. Dans des conditions extrêmes, par exemple, de froid, la circulation sanguine va se concentrer vers les organes vitaux, le cœur, le cerveau. Et effectivement, d'autres organes qui sont moins vitaux pour la survie en tant que telle de l'organisme qui est l'humain, ce sera par exemple les mains, les bras, les extrémités, etc.
Donc ça se fait directement avec le catalogue de services. Si notre entreprise a déjà fait ce genre de choses, une démarche utile d'avoir un catalogue de services, de dire tel et tel service sont vitaux à l'organisation. En cas de PRA, par exemple, c'est peut-être pas nécessaire de revitaliser le système, par exemple, de gestion de paye, de congé, par exemple.
De congé, oui.
Congé. La paye, c'est bien quand même.
De congé, oui.
Donc, il y a de bonnes idées, parfois, il y en a des moins bonnes.
Il y en a des moins bonnes. Effectivement, on l'a dit, c'est pour pallier le plus souvent un désastre majeur, feu, inondation, tempête. Donc, c'est pas forcément la meilleure idée de dire mon plan de reprise d'activité, je vais redémarrer sur des machines qui sont dans le rack d'à côté ou dans la salle d'à côté ou à l'étage au-dessus. Parce qu'effectivement, si on a un dégât de type incendie, par exemple, il y a des chances que ça se propage à l'ensemble du bâtiment. Si on a une tempête qui peut être localisée à un site géographique, si le bâtiment de PRA est à 20 mètres du premier bâtiment, probablement ça ne servira pas.
Donc ça ne s'improvise pas, c'est basé sur l'analyse de risque que l'organisation a déjà fait au préalable, de toute façon.
Exactement. Donc l'analyse de risque, elle va dépendre effectivement des endroits où sont situées vos entreprises, donc des risques potentiels qu'il peut y avoir. Donc ça peut être des risques réellement de type climatique, donc ouragan, inondation potentielle, enfin zone inondable, ou présence dans vers des endroits qui peuvent brûler, type forêt, etc. Ça peut être tremblement de terre. Enfin voilà, il y a plein d'éléments à prendre en compte comme ça. Et panne d'électricité, ça peut être effectivement dans des zones où il y a une très forte densité d'entreprises et peu de de moyens d'amener l'électricité. Enfin, donc voilà, l'idée, c'est un petit peu ça derrière.
On oublie aussi les aliens qui débarquent et qui démagnétisent tout ton data center.
C'est plus rare, mais le PRA peut pallier parfois à ce genre de cas. Donc, pour résumer donc cette image un peu marrante, c'est juste de dire que ce n'est pas une bonne idée de mettre en fait de partir sur le data center de secours, la salle de secours juste à côté de la première. Et on a eu des cas comme ça, un cas assez intéressant qui était un client sur une zone, on va dire, portuaire en France, qui a fait un plan de reprise d'activité parce que sa salle principale est en zone inondable, ce qui peut arriver. La problématique, c'est qu'en fait, la salle de secours pour le plan de reprise d'activité est située plus bas que la salle d'origine, donc ce sera elle qui sera inondée en premier avant d'inonder la salle principale. Donc là, par exemple, c'est pas très bonne idée. Bon, faut avoir un petit peu de logique, mais une fois qu'on a la logique, après, on peut passer à la partie un peu plus technique.
Allez, justement, sur la partie technique, quelques termes qu'on va chercher à identifier dans ce plan de reprise d'activité. Le premier, c'est le RPO, le Recovery Point Objective. Qu'est-ce qu'on entend par là? En fait, c'est la durée max d'enregistrement de données qu'on est capable de perdre, qu'on a envie, qu'on supporte comme perte, dans le cas où un incident se passe sur ma production. Donc, c'est quel est notre objectif en matière de sauvegarde? En gros, à partir de mes technologies qui vont permettre de prendre un cliché de l'état de la production, qu'est-ce que je vais avoir comme delta de données live perdues?
Voilà. Donc là, c'est sauvegarde, mais ça pourrait être également données répliquées. Si on est dans des systèmes de réplication asynchrone, on pourrait dire c'est j'accepte de répliquer avec une perte de maximum tant de temps. Et effectivement, du coup, le temps de réplication, la fenêtre de réplication sera un petit peu plus courte. Je fais un petit appui là-dessus parce qu'en fait, on va en parler tout à l'heure dans la partie hyper-V réplica.
Autre indicateur.
Le RTO.
Le RTO, c'est la durée que j'accepte entre le moment où un incident se passe et puis j'ai quelque chose qui recommence à redémarrer. Je peux continuer à continuer mon business.
Donc c'est partir, effectivement, le RTO, c'est de partir de quelque chose où il n'y a rien à quelque chose où on peut commencer à travailler. Et effectivement, ça doit, là encore, se définir si possible à l'avance. On doit se dire, voilà, de combien de temps je dispose pour redémarrer à minimum, et est-ce que c'est acceptable ou pas? Et donc, effectivement, si des fois on a des ressources ultra critiques, on pourrait penser par exemple à des systèmes d'information pour traders, où là, effectivement, chaque seconde peut coûter des millions d'euros. Effectivement, dans ce cas-là, ce qu'on voudra, c'est un RTO très très faible pour un redémarrage ultra rapide. Donc, si vraiment on avait un RTO quasiment proche de zéro, dans ce cas-là, on n'est plus réellement dans du plan d'emprise d'activité, parce qu'on est dans ce qu'on appelle un géocluster. Et un géocluster, c'est très cher, et c'est plutôt dans ce cas-là ce qu'on appellera du PCA.
De continuité d'activité.
Exactement, le plan de continuité d'activité. On est en train de chercher le nom anglais. Alors, quelques exemples ici sur un tableau qui n'est pas très lisible, mais c'est juste pour vous donner un exemple, on va dire, une application hautement critique, elle doit avoir un très haut taux de disponibilité avec un RTO ici, un RTO qui serait de moins de 1 seconde. Mm-hmm. Et on dit, là, à chaque année, je ne veux pas perdre plus de 3 secondes d'activité, et je veux un RTO qui soit hyper faible. Et le RPO proche de zéro, ça veut dire que je ne veux rien perdre, le temps de la bascule, quoi, et c'est tout. Donc là, on sera sur quelque chose qui sera très très cher, et on est réellement ici sur l'indisponibilité, enfin en gros, pas l'indisponibilité tolérée, quoi. Mm. Système ultra critique. À l'inverse, on peut avoir des niveaux de criticité qui sont plus faibles. Dire par exemple, j'accepte d'avoir 3,6 jours d'indisponibilité par an et je pourrais avoir effectivement un RPO, donc une perte de données inférieure à 24 heures. Donc je me dis, je fais des backups quotidiens. Mm-hmm. Là, ça passe dans cette fenêtre-là. Et le RTO, le temps de redémarrer, c'est je me donne une journée pour redémarrer le système, un système équivalent. Voilà. Donc, par exemple, ça c'est juste des exemples d'échelle. Vous pouvez après réadapter, classifier et dire dans votre entreprise, j'ai listé l'ensemble de mes ressources, de mes assets, et sur ces assets, je vais appliquer deux ou trois niveaux de criticité différents en fonction de ce que j'ai besoin dans l'entreprise.
Alors, si on met tout ça sur un dessin, pour
et ben, plus simple. Ouais, dans le dessin qui m'a inspiré, c'est celui de Wikipédia, j'ai juste un petit peu refait. Donc effectivement, on a un service qui fonctionne, qui est en vert ici, avec une sauvegarde, une réplication ou une copie qui se fait tous les X temps. Mm-hmm.
Matérialisé par le petit disque dur.
Hein. Matérialisé ici, exactement par le petit disque dur. Un incident majeur arrive, on n'a plus aucun service opérationnel, donc on est à zéro en bas. Et puis on va commencer à redémarrer le service, d'abord de manière dégradée dans un périmètre restreint, jusqu'à arriver à la fin sur un service opérationnel. Et en fait, c'est là que sont les RPO et les RTO. Donc le RPO, c'est réellement la fenêtre qu'on a perdue entre la dernière sauvegarde, ou dernière copie, ou dernière réplication, mm-hmm. et le fameux incident. Donc là, effectivement, on n'a pas de backup si tout a réellement brûlé, par exemple. Et le RTO, effectivement, c'est le temps qu'il faut, à minimum, pour commencer à redémarrer les services. Voilà. Trois choses pour un plan d'emploi d'activité, Arnaud ?
C'est une ou des solutions techniques. Alors, on va en discuter. C'est même l'objectif principal de ce cours, c'est d'avoir des mécanismes qui vont me permettre de m'assurer que j'ai des sauvegardes de mes machines virtuelles, que j'ai des réplications de mes machines virtuelles. C'est même l'objectif essentiel de ce cours. Mm-hmm. Mais ce n'est pas que ça. C'est aussi des processus et c'est aussi des personnes. Processus pourquoi ? Pour documenter tout ce qui doit être fait en cas de plan de reprise d'activité, pour les tester et puis être mis à jour régulièrement dès qu'il y a un changement sur un quelconque composant du système d'information. Pourquoi est-ce qu'on veut des processus pour tout ça ? Pour que le jour où l'incident se passe réellement, eh bien en fait on n'est pas à réfléchir. Parce qu'en général on n'est pas au top de sa forme intellectuelle. Hein, quand un système commence à casser un petit peu de tous les côtés, on a toute l'organisation qui commence à être présente un petit peu sur notre dos, nous demander quand est-ce que ça va redémarrer. Donc il faut absolument des processus qui vont permettre de agencer, de mettre ensemble en fait ces solutions techniques et les personnes. Et les personnes, elles vont devoir se reposer sur les processus, sur les documentations qui existent pour redémarrer un service minimum, pour qu'on n'ait pas de questions à se poser. Tout soit exécuté sur le papier.
C'est vraiment une checklist en fait. Alors, on va dire qu'un plan d'emploi d'activité, on part du point numéro 1 et on descend jusqu'à la fin, jusqu'à dire ok, ça c'est à redémarrer. On va prendre un cas très simple, prendre une architecture toute bête qui serait simplement, là c'est hypothétique, hein, un contrôleur de domaine ou deux contrôleurs de domaine Active Directory et puis un serveur de fichiers, effectivement, rien que ça, déjà, il y a un ordre de démarrage. On va démarrer le premier contrôleur de domaine, puis le second, puis le serveur de fichiers. On ne va pas démarrer le serveur de fichiers avant de démarrer les contrôleurs de domaine. On ne va pas tout démarrer en même temps. Ce n'est pas une bonne idée non plus. Et puis, ces personnes, tu l'as dit, il faut qu'elles soient formées aux solutions techniques également, parce que même si c'est très bien documenté, c'est quand même, elles sont toujours plus à l'aise en connaissant déjà l'outil, en l'ayant déjà utilisé, déjà manipulé, en ayant déjà suivi la procédure, que si elles le découvrent le jour J. Et là, finalement, ça rapproche vraiment de choses qu'on connaît dans le monde de l'ISO, qui est le domaine de la qualité. Et si on prend par exemple l'ISO 27001 qui traite de la sécurité des systèmes d'information, dans les cadres d'audit, les auditeurs viennent faire quoi ? Ils viennent pas évaluer si c'est quelque chose est bien fait ou mal fait. En termes de choix de solutions techniques, ils viennent prendre des procédures et vérifier que ce qui est écrit est réalisé et que ce qui est réalisé est écrit. Donc ça veut dire qu'effectivement, ça doit vivre tout ça. Ces procédures, il y a des chances qu'un système d'information y vive, que votre version de Windows change, qu'il y ait des nouveaux services qui viennent, etc. Et du coup, il faudra de manière régulière, en fait, remettre à jour ces procédures et donc les retester également de manière régulière. Si vous faites un plan d'activité, un PRA, vous le documentez, vous mettez les documents dans une armoire, vous ne le testez pas, vous dites bah, « quand on aura le temps, on le testera », et que 2 ans plus tard, vous le testez, il y a des chances que dans les 2 années qui ont suivi, il y a eu des changements et que du coup, les outils ne soient plus exactement les mêmes, les versions des logiciels de sauvegarde ont pu changer ou de réplication, etc.
Eh bien, c'est parti, commençons à mettre un peu le nez dans les options techniques. Le niveau 0, hein, ça va être faire de la copie de fichiers, copie des configurations des machines virtuelles, copie des disques virtuels. Alors, on est vraiment au ras des pâquerettes, mais c'est toujours mieux que rien. Okay. Après, on a des sauvegardes, ça peut être des sauvegardes en ligne ou offline, des machines virtuelles qui sont en train d'être opérées. Après, on a des technologies de réplication synchrone, ça va être du cluster, géocluster plus précisément, qui va être répliqué à l'opération près dans un data center secondaire. Et puis, on a d'autres technologies comme la réplication asynchrone, Hyper-V Replica, qui est l'objectif de ce cours aujourd'hui. C'est ce qu'on va voir dans le module 2.